Nous sommes petit à petit en train de terminer l'épître de Paul aux Galates. Et l'exhortation que l'apôtre Paul apporte dans ces chapitres 5 et 6, c'est notamment de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et vous savez que dans cette lettre, l'apôtre Paul utilise à plusieurs reprises le mot « frère ». Alors, et notamment dans le chapitre 5 et chapitre 6, il commence à chaque fois une section en disant « frère ». Et lorsqu'il utilise ce mot « frère », il l'utilise donc pour s'adresser aux chrétiens de Galates, ou aussi pour parler de ses compagnons d'œuvre. En introduction, il parle de ses frères compagnons d'œuvre. Et là, il montre le lien très fort qui existe entre les croyants, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Par ce seul mot, frère, il montre que les croyants forment une famille. Ce sont des frères et sœurs, on dit, en Christ, qui forment une famille dont Dieu est le Père, celui qui donne, comme il dit au chapitre 1, verset 3, celui qui donne la grâce et la paix, celui qui a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et c'est ce qu'il dit au chapitre 4, verset 6. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage, nous le dit dans Romains, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Donc l'apôtre rappelle également que ceux qui ont mis leur foi en Jésus sont à Jésus-Christ. Ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. C'est ce qu'il dit au chapitre 5, verset 24. Donc, nous appartenons à Jésus-Christ, puisque c'est lui qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est ce que l'apôtre dit au chapitre 1, verset 4. Donc le jour de notre conversion, les chrétiens ont crucifié leur chair, leur vieille nature, avec leurs passions et leurs désirs. C'est ce qu'il dit toujours dans ce verset 4 du chapitre 5, verset 24 du chapitre 5. Et si le Seigneur nous a arrachés, c'est pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour ne plus être esclaves du péché, le chrétien vit par l'Esprit. Il vit par l'Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le régénère. C'est l'Esprit de Dieu qui donne vie. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois. Vous étiez morts et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie. Donc, on vit par l'Esprit, mais là, l'apôtre Paul met l'accent sur le fait que si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit. Si c'est l'Esprit de Dieu qui a donné vie à votre être, alors laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Et c'est là l'exhortation qu'il a donc adressée aux Galates et qui nous est aussi adressée. Nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et dans le chapitre 5, à partir du verset 13, nous avons vu que lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, nous accomplissons la loi. Puisque la loi qui est sainte, qui est bonne, selon Romains chapitre 7, verset 12, est résumée dans ces commandements que le Seigneur Jésus donne aux scribes. Voici le premier, il dit « Écoute Israël, Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc le Seigneur Jésus résume la loi de Moïse. Quand on lit les 10 commandements dans Exode chapitre 20, voilà le résumé. Et l'apôtre Paul dit que lorsque on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, le chrétien peut accomplir la loi. L'autre chose, c'est que en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu, nous avons aussi la victoire sur le péché et sur notre vieille nature. Donc là, il explique dans les versets 16 à 21 que nous sommes confrontés à une lutte intérieure qui s'oppose en nous, donc entre la chair, ses désirs de la chair et ceux de l'esprit. Il dit les deux sont opposés. Et donc le chrétien, lorsqu'il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, il a la victoire sur ses mauvais penchants. Et la troisième chose que j'avais soulignée et ce que ce texte nous parle, c'est que lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, nous ressemblons de plus en plus à Jésus-Christ. Les qualités qui étaient en Jésus-Christ se voient de plus en plus en nous. Et c'est ce qu'il parle lorsqu'il parle du fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a une quatrième chose que nous allons voir ce matin. Quatrième chose que nous arriverons à faire si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Et cette chose, ça sera de pouvoir faire du bien aux autres. Pouvoir faire du bien aux autres. Et ça, on va le lire à partir, donc, on va le relire à partir du verset 24 du chapitre 5 et nous allons lire jusqu'au chapitre 6, verset 10. Donc oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous faire du bien réciproquement. Et donc l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous faire du bien. Donc, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu et nous ferons du bien aux autres et particulièrement, comme il est dit à la fin, et particulièrement aux chrétiens. Et donc, particulièrement aux frères et sœurs que nous côtoyons. Alors, nous pourrons leur faire du bien en leur montrant notre amour. Dans le verset 26 du chapitre 5 et jusqu'aux 5 premiers versets du chapitre 6, l'apôtre Paul met l'accent sur l'importance de faire preuve d'humilité les uns vis-à-vis des autres. Le chrétien qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu saura adopter une attitude humble, étant conscient de ses propres faiblesses. Il ne cherchera pas à écraser l'autre pour se valoriser, mais par amour pour son frère, il fera tout pour l'aider à se relever si celui-ci venait à chuter. Dans Romains chapitre 12, verset 3, l'apôtre Paul nous dit que « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, ni de revêtir des sentiments, mais de revêtir, pardon, des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc il dit, ne cherchez pas une vaine gloire en vous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Provoquer les autres ou porter envie aux autres est le fruit de notre orgueil. Nous savons que aussi, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ce que nous dit Jacques au chapitre 4, verset 6. Donc, on peut témoigner de son amour à l'autre en faisant preuve d'humilité. L'autre chose, c'est que nous pouvons témoigner de cet amour en étant capables aussi de redresser celui qui a péché. Il est dit dans un esprit de douceur, d'après ce verset 1 du chapitre 6. Donc, lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, il dit l'homme spirituel cherchera, parce que l'homme spirituel ou l'homme qui est donc conduit par l'Esprit, c'est dans d'autres traductions vous avez ça, l'homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il cherchera à ramener sur le droit chemin ou à remettre sur pied celui qui est tombé, tout en sachant que lui-même, s'il n'est pas vigilant, peut lui aussi se retrouver à la place de celui qui est tombé. Donc, ça fait partie certes, de la tâche pastorale, mais c'est pas seulement destiné au pasteur d'être l'homme spirituel, d'être seulement l'homme spirituel. Il faut qu'il soit un homme spirituel. Mais il peut être comme tous, il peut chuter, et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, fais attention. Mais l'homme spirituel, ou la femme aussi spirituelle, c'est celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Donc chacun, frères et sœurs, doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et chacun peut être en mesure d'accompagner, de soutenir, d'aider celui ou celle qui a fauté. Et c'est une façon aussi de témoigner de son amour à cette autre personne. L'autre chose, c'est que nous pouvons témoigner notre amour en étant prêts donc, à aider l'autre à porter son fardeau, comme il est dit au verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous avons tous des fardeaux à porter. Et nous avons tous besoin que des personnes puissent nous aider à pouvoir les porter, parce que c'est l'apôtre Paul qui le dit, et c'est le Seigneur qui nous le dit à travers l'apôtre Paul. Être prêt à aider l'autre à porter son fardeau, c'est lui témoigner qu'on l'aime. Lorsque une sœur ou un frère nous appelle pour nous parler d'un souci, ça veut dire que voilà, je vais l'aider à porter son fardeau, je vais prier avec elle, je vais l'encourager. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était à Gethsémané, il avait ce fardeau. Et il aurait pu aller directement, tout seul, laisser ses disciples dans la chambre haute, et puis aller tout seul prier. Mais non, il a pris avec lui les disciples, les apôtres les plus intimes, Pierre, Jacques et Jean. Venez avec moi. Et il va dans un lieu, il va s'écarter et il va leur dire, mais priez avec moi. Et à trois reprises. Et là, les disciples, au lieu de prier, eh bien, ils étaient endormis. Mais le Seigneur a montré par là que ce fardeau qu'il portait, et là, il a déversé aux pieds de son Seigneur, Il a déversé au pied de son, auprès de Dieu ce fardeau. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il demandait aussi aux disciples de prier avec lui. Et l'apôtre Paul dit après que chacun portera sa propre charge. Cette charge qu'il avait, les disciples ne pouvaient pas le porter. D'aller et de donner sa vie sur cette croix, les disciples ne pouvaient pas le faire, c'était pas à eux de le faire. Donc vous voyez, il n'y a pas de contradiction entre le fait que nous devons porter nos fardeaux les uns les autres et le fait aussi que chacun doit porter sa propre charge. Donc là, le Seigneur nous dit, nous sommes des frères et des sœurs, nous pouvons témoigner de l'amour que nous avons à nos frères et sœurs en partageant ce fardeau que nous avons et que nous puissions prier. Lorsque nous nous retrouvons le mercredi soir, nous partageons le fardeau, nous prions les uns pour les autres. C'est ça le sens. On raconte pas sa vie, on n'est pas là pour... On est là parce qu'on a un fardeau et on veut qu'on prie pour nous. Mais chacun a sa charge et l'autre ne pourra pas porter cette charge que nous avons. Lorsque nous avons à porter la parole, c'est un fardeau. Mais aussi, c'est une charge que nous avons que les autres ne peuvent pas porter à notre place. Vous voyez? Donc, être prêt à aider l'autre à porter son fardeau. J'ai noté l'exemple des pharisiens qui ont amené cette femme surprise en flagrant délit d'adultère dans Jean chapitre 8, dans les versets 3 à 11. Et ce qui est vraiment frappant dans ce fait, c'est que ces hommes viennent avec cette femme pour et remettent devant le Seigneur les paroles de Moïse, de la loi, qui dit voilà qu'il faut lapider une telle femme. Le Seigneur qui se met par terre en train d'écrire, après se lève, il dit mais que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et le texte nous dit que les hommes, ces hommes-là, accusés par leur conscience, ils sont partis, ils se sont retirés un à un. Mais lorsque nous sommes un homme spirituel, une femme spirituelle, nous adoptons l'attitude de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il n'excuse pas le péché. Il n'excuse pas le péché, mais il pardonne le pécheur. Il dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Ce sont ceux qui t'accusent, ils sont pas là. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Vous voyez, le Seigneur, lui, il est compatissant, il est miséricordieux. Et lorsque on vient partager ce fardeau, lorsqu'on sait que notre frère ou notre sœur a chuté, a commis un péché, on n'est pas là pour jeter des pierres. On est là pour dire, oui, tu as péché. C'est pas selon la parole de Dieu. Et c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Et il faut abandonner cette vie-là. Si tu veux avancer avec le Seigneur, il faut arrêter. Et donc, on va prier ensemble. Et tu vas prendre les mesures. Va, il ne pêche plus. Donc, laissons-nous, frères et sœurs, conduire par l'Esprit de Dieu pour... témoigner de cet amour aux autres, à ceux que Dieu a mis à nos côtés, et ne soyons pas comme ces pharisiens. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu et nous ferons du bien aussi aux autres en montrant à Dieu notre amour pour lui. Et j'aimerais souligner ça dans les versets 6 à 8. Montrez à Dieu notre amour pour lui. Et souvenez-vous que je vous disais que lorsqu'on est on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, on accomplit la loi qui est résumée par ces deux commandements, l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour son prochain. Donc, au verset 7, l'apôtre dit que « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Il parle avant de... de celui qui enseigne et ce que doivent ceux qui sont enseignés à celui qui enseigne. Et il dit au verset 7, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » On ne se moque pas de Dieu. Vous savez que la Bible dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Tous. Dans Romains chapitre 14, verset 10 à 12, il dit, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. » C'est ce que disait notre frère Pierre ce matin encore. « Tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera, toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et ça, il ne faut pas l'oublier. On ne vit pas juste comme ça. Un jour, on devra rendre des comptes à Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 10, et c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ne nous y trompons pas. On ne se moque pas de Dieu. Dieu voit de quelle manière nous utilisons les biens qu'il nous a donnés. L'usage que nous faisons de ces biens, temps, argent, dons qu'il nous a donnés, et l'usage que nous en faisons témoigne de l'amour que nous lui portons. Et pour cela, nous devons veiller, frères et sœurs, à la qualité et à la quantité de notre semence. L'apôtre Paul utilise cette image-là pour parler de cela, de cette vérité. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Veillons à la qualité et à la quantité de notre semence. Et si nous voulons être devant Dieu, et parce que nous le serons un jour, et que nous devons rendre compte, il nous posera cette question, comment as-tu semé? Quelle qualité, quelle quantité? Et plusieurs donc vérités donc sont à retenir dans cet adage, dans ce verset, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. L'on moissonne donc ce que l'on sème. La qualité de la moisson sera fonction de la qualité de la semence. Par exemple, donc c'est ce qu'il dit au verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. L'autre chose aussi, c'est que la quantité de la moisson sera aussi fonction de la quantité de la semence. Et l'apôtre Paul, en encourageant les chrétiens de Corinthe par rapport à cette œuvre de libéralité pour aider les chrétiens de Jérusalem, il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et l'autre chose, c'est que le temps de la moisson arrivera, quoi qu'il advienne. Il y aura forcément un temps pour la moisson. Lorsqu'on sème, on s'attend à la moisson. Donc les questions que nous devrions nous poser donc, sont les suivantes. Qu'est-ce que je voudrais obtenir au moment de la moisson? Ou bien, que suis-je en train de semer? Qu'êtes-vous en train de semer? Et selon ce que nous semons, nous moissonnerons. Je vais donner une infinité d'exemples pour expliquer cette vérité. Tu travailles à l'école, tu auras de bonnes notes. Tu travailles à l'école, tu auras un bon travail. Le sportif qui s'entraîne dur à l'entraînement, eh ben, il va progresser, etc., etc. Et donc, on va vraiment voir ça par rapport à l'application, par rapport aux choses de l'Église. Donc, celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu n'est pas insensible à ce qu'il moissonnera. Parce que quelqu'un pourrait dire, manière, moi, je m'en moque, j'ai pas besoin de moisson, je fais ce que je veux. Mais si on est conduit par l'Esprit de Dieu, on peut pas se moquer. On peut pas dire, voilà, moi, la moisson, ça m'intéresse pas. Et puisqu'il y aura une moisson, qui peut être dans le temps présent ou dans le temps à venir, il veut que donc cette moisson soit de bonne qualité et de quantité suffisante. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu veut que cette moisson soit de bonne qualité et de quantité suffisante. Et donc, il va veiller à la qualité et à la quantité de sa semence. Donc l'apôtre dit que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Qu'est-ce que vous préférez, la corruption ou la vie éternelle? Oui. Donc est-ce que nous semons pour satisfaire notre vieille nature, nos passions et nos désirs charnels, ou est-ce que nous semons pour des biens éternels? La question est posée. Donc la semence représente l'usage que nous faisons de notre temps, de nos biens matériels, des talents ou des dons que Dieu nous a donnés. La moisson représente le fruit de notre travail dans le temps présent, comme je l'ai dit, ou à venir. Elle peut représenter aussi les récompenses que nous recevrons de la part de notre Seigneur. Je vais prendre plusieurs exemples avec vous. La semence peut être le temps que l'on va consacrer à un frère ou une sœur qui a chuté, pour revenir à l'exemple d'avant, pour l'aider donc à se relever. Donc je vais consacrer du temps pour aller voir la personne, pour l'appeler, etc. Et la moisson sera le jour où nous verrons cette personne qui retrouve une vie chrétienne épanouie. Une personne qui va retrouver la communion des frères alors qu'elle s'était éloignée. Et Jacques, dans Jacques chapitre 5, verset 19 à 20, il dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Donc c'est très important. Mais pour cela, il faut y consacrer du temps. Et c'est une façon de montrer à l'autre qu'on l'aime. La semence aussi peut être l'énergie que nous allons mettre en œuvre pour l'annonce de l'Évangile ou l'enseignement de la parole de Dieu. La moisson sera de voir des âmes qui se tournent vers Dieu, des chrétiens qui grandissent dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Et donc, il y a la semence, il y a la moisson. On peut prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 4. Alors, on connaît cette histoire. On va lire une partie, là, tout à l'heure. Jésus, il est fatigué du voyage, dans Jean 4, verset 6. Et il dit fallait qu'il passe par la Samarie. Il avait faim, ou peut-être faim, parce que les disciples vont partir pour aller acheter de quoi manger. C'était en plein midi, donc il faisait chaud. Le Seigneur, donc, Jésus ne va pas laisser son état physique, ni quelques préjugés que ce soit par rapport aux Samaritains, parce que les Israélites n'avaient pas de rapport avec les Samaritains, et même quand ils traitaient quelqu'un de Samaritain, c'était vraiment pas bien. Et donc, le Seigneur Jésus ne va pas s'arrêter à ses préjugés. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va consacrer du temps à cette femme pour engager une discussion avec elle et lui dire que, au fait, c'est lui qui peut lui donner cette eau vive, cette eau dont elle a besoin. Le Seigneur va prendre le temps aussi de discuter avec elle, mais pour parler, voilà, il est où ton mari? Tu as eu 5 maris, mais celui à qui tu es, c'est pas ton mari. Il va, comme la femme adultère, lui dire, la vie que tu mènes n'est pas une vie qui est à la gloire de Dieu. Et il va parler à cette femme, lui dire, en fait, on n'adore pas ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et il lui dit, mais le Messie que tu attends, c'est moi. Il lui annonce que c'est lui le Messie. Alors, lisons ce qui se passe donc après dans Jean chapitre 4. Donc, vous avez déjà, j'ai vu, pris le passage, verset 27. Donc, le Seigneur Jésus a consacré du temps, il a pris du temps avec cette femme, alors qu'il était peut-être dans un état de faiblesse parce qu'il était fatigué, il avait faim. Malgré tout ça, il a pris le temps. Là-dessus, verset 27, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Après, il est dit que plusieurs Samaritains vinrent et ils confessent que Jésus-Christ est vraiment le sauveur du monde. Donc, si le Seigneur n'avait pas pris ce temps avec cette femme, toute cette ville n'allait pas connaître le Messie. Mais qu'est-ce qu'il dit à ses disciples ? « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et le Seigneur, rempli du Saint-Esprit, c'était ça sa priorité. Et là, j'ai employé le terme, la priorité. La priorité du Seigneur, ce n'était pas de manger ni de boire. Sa priorité, c'était d'annoncer cette bonne nouvelle, que c'était lui le Messie, c'est lui qui pouvait être, qui est la source d'eau vive, et que c'est par lui qu'on peut avoir donc la vie éternelle. La semence peut être aussi l'usage que nous faisons de nos biens matériels. L'apôtre Paul, il en parle. Les biens que nous recevons de Dieu pour faire avancer son œuvre. Pour soutenir les serviteurs de Dieu qui sont à plein temps dans l'œuvre, soit pasteur ou missionnaire, il dit dans que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Là, c'est dans cette version-là. Dans d'autres versions, la version Semeur ou la version Second 21, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je préfère plus cette version-là. Parce que il y a certains qui abusent. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus. Et qui peut-être profitent de dire, voilà, ah oui, donne-moi tout ton argent parce que c'est moi le pasteur. Non, c'est participer, partager. Là, le terme, c'est voilà, partager avec l'autre ce que Dieu nous a donné. Et donc, celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et on peut donner pour faciliter la réalisation d'un projet, soit la construction d'un bâtiment ou l'entretien d'un bâtiment comme le nôtre, par exemple, pour aider de manière ponctuelle les frères ou les sœurs qui sont en difficulté. Voilà, les biens que Dieu nous a donnés, et ça fait partie des offrandes. Quelqu'un a cité le texte d'Hébreu qui parlait des libéralités, justement, et que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà, c'est bien matériel que nous donnons. Est-ce que nous l'utilisons pour les choses éternelles ou est-ce que c'est des choses futiles pour les choses de ce monde, des choses qui sont périssables, qui sont pour la corruption? Le Seigneur Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc celui qui partage ses biens matériels dans le but de l'édification du corps de Christ sème pour l'Esprit et moissonnera dès maintenant une plus grande bénédiction. Et tandis que celui qui sème ou utilise ses biens pour sa chair, pour favoriser sa vieille nature, pour chercher à plaire à lui-même, il moissonnera que déception, désillusion et tristesse. Donc à nous maintenant de choisir où nous voulons semer. Une fois la semence jetée, frères et sœurs, on ne peut plus changer la moisson. Et l'autre chose que j'aimerais juste ajouter, c'est que la semence peut être aussi la manière que l'on utilise les talents ou les dons que Dieu nous a donnés. Vous connaissez la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. Ce maître qui, avant de partir, il donne plusieurs talents à ses serviteurs. Donc une certaine quantité d'argent, on va dire. À l'un 5, à l'autre 3 ou 2, à l'autre 1. Il donne à chacun en fonction de ses capacités aussi. Et lorsque le maître il revient longtemps après, chacun devait rendre compte de la manière qu'il a géré ces dons, ces talents que le maître leur a donné. Et à chacun, ceux qui ont fait qui ont utilisé le temps, parce que le texte dit que aussitôt que le maître soit parti, aussitôt les premiers sont allés faire fructifier ces talents. Donc ils ont fait un bon usage du temps, ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont travaillé dur pour faire fructifier tout ça. Et l'autre qui était finalement méchant, parce que c'est comme ça qu'il est défini, il est allé enterrer ce talent et puis il a perdu son temps dans les futilités. Et puis lorsque les maîtres sont revenus, il est allé le déterrer, il lui a dit « Ben tiens ton talent ». Donc faisons attention. Nous ressemblons à qui, là? Est-ce que nous faisons partie de ceux qui sont prêts à aussitôt faire fructifier ce que Dieu nous a donné? Ou est-ce que nous l'enterrons et nous gaspillons notre temps à faire des choses qui n'ont aucune valeur? Et puis après, lorsque le Seigneur revient, on va lui dire, tiens, voilà le talent que tu m'as donné. Voilà, donc, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, nous sommes encouragés à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, à persévérer, même si nous ne voyons pas encore la moisson. Il y a certains qui ne verront pas forcément tout de suite, mais il y a une moisson qui est certaine, qui est à venir. Et au lieu que ce soit la vie éternelle, malheureusement, pour certains qui travaillent dur, c'est épreuve, tristesse. Et il peut arriver que, à force de semer, de ne pas voir les résultats, de ne pas voir les fruits, et on se dit, mais pourquoi ai-je sacrifié mon énergie, mon temps, mon argent, etc. Et le danger pour nous risque d'être la lassitude dans le service ou le relâchement, voire même l'abandon. Donc, soyons certains, dit l'apôtre Paul, que nous récolterons le fruit de notre travail. Si nous semons, nous moissonnerons forcément, à condition que nous n'abandonnons pas le ministère ou le service que notre Seigneur nous a confié. À la fin de notre pèlerinage, nous devrions dire comme l'apôtre Paul, « Oui, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Donc jusqu'au bout, il utilisait son temps et ses moyens, tout, pour servir son Seigneur. Et le temps, frères et sœurs, que nous consacrons aux autres, les biens que nous mettons au service des autres, que nous partageons les dons spirituels que nous mettons au service des autres, tout cela témoigne de l'amour que nous avons pour les frères et sœurs, mais aussi de l'amour que nous avons pour Dieu. Consacrer du temps aux autres, et notamment pour les frères et sœurs dans la foi, revient à semer pour l'esprit. Et le Seigneur nous dit que nous moissonnerons au temps convenable. Dans 2 Jean, verset 8, il dit « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et on peut lire ce passage d'Hébreux, Hébreux chapitre 6. Alors, que cela nous encourage à persévérer, à continuer à semer, à veiller à la qualité de notre semence, à la quantité aussi. Il dit dans Hébreux chapitre 6, verset 9, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc, l'auteur, il encourage ceux qui sont à l'œuvre. Il dit « Dieu va pas oublier tout ça ». Et puis, il encourage aussi ceux qui font moins. Et il dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle ». Donc, vraiment que cela puisse être un petit rappel pour nous. Il est vrai que nous sommes en début d'année scolaire et l'une des premières choses qu'on donne aussi bien aux élèves qu'aux professeurs, c'est leur emploi du temps, n'est-ce pas? Et on donne l'emploi du temps aux professeurs ou aux élèves, on leur dit voilà votre emploi du temps. Ils disent pas bon, moi je veux pas cet emploi du temps, sauf une personne qui voudrait aller contester. Mais il y a toujours quelques professeurs qui contestent aussi, mais on leur donne l'emploi du temps. Lundi, ça sera ça, de telle heure à telle heure, mardi, etc. Ça organise le temps. Je pense que chacun de nous, nous avons un emploi du temps. Pour ceux qui sont au travail de telle heure à telle heure. Mais après, dans l'emploi du temps, il y a des trous. Que faisons-nous de ces trous? Bon, il faut se reposer aussi un peu, ça c'est vrai. Mais frères et sœurs, la semence, l'usage que nous faisons du temps, de nos biens, de nos dons, etc. Mais c'est la base de tout, c'est l'usage du temps, en fait, finalement. Est-ce que nous mettons dans notre emploi du temps les moments où nous serons édifiés, les réunions de la semaine, le dimanche, le mercredi? Après, lorsqu'on a pour des activités autres, le sport, là, pour ceux qui font une telle ou telle activité, voilà, ça vient se greffer à tout ça. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que pour les enfants qui ont des activités, et à chaque fois je réfléchis par rapport à ça, je me dis, voilà, ils ont l'emploi du temps pour le collège et le lycée. Ils font telle autre activité, on leur dit ça sera tel jour et ils ne discutent pas. Telle autre activité, on essaie pendant toute la semaine, c'était ça, de s'arranger pour faire entrer les choses. Et Dieu dans tout ça, où on le place pour tel, est-ce qu'on pense qu'il y a ça, telle activité? Et je pense que pour nous tous, nous devrions faire attention. Et mon constat, c'est que plus on avance et plus l'emploi du temps est rempli de plein de choses et que la place pour les choses de Dieu sont minimes. Et donc vraiment, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, faisons attention. Elle est où la place de Dieu dans cet emploi du temps? Lorsqu'on nous impose des choses pour des activités qui mènent à la corruption, qui ne servent à rien, on se soumet, on le fait, on applique. Et pour les choses éternelles, est-ce qu'on met la priorité pour ces choses éternelles? Donc, que chacun réfléchisse.